Les vaches dans les prés, il faut les voir de loin. Elles broutent plein de l'herbe et puis des fois du foin. Elles sont belles avec les mouches qui les aiment, qui leur chient dans les oreilles et aussi dans les yeux.
Me font les vaches font me font les vaches font me.
Quand au petit matin arrive le fermier, il y a la chef des vaches qui l'entend arriver. Et la chef des mouches suit la chef des vaches. Le bouseux ouvre les portes pour brouter, c'est leur hache.
Me font les vaches font me font les vaches font me.
Elle broute, elle mange, elle mâche la pelouse. Et le soir, dans les prés, elle nous offre les bouses. Et puis, faut les rentrer pour prendre le bon lait. Les treilleuses sont branchées, c'est la fin de la journée.
Chip, chip, font les machines font chip, chip. Me font les vaches font me.
On ne traite pas les mouches, car elles n'ont pas de lait. Et puis que les treilleuses, ça ne s'est pas volé. Mais les vaches qui n'ont pas de lait, on leur coupe le kiki. C'est ce que t'as chez Leclerc, et puis bon appétit.
Bonjour à tous, donc vous êtes sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission Zoom Écologie avec l'équipe de la Banda Bébert qui est composée ce soir de Clément.
Bonsoir.
De Juanara.
Bonsoir.
De Cyril à la technique qui fait coucou de la main. Et nous avons un squatter canin au doux prénom de Flash. Et donc c'est Élise là qui vous parle. Alors, pour cette émission, nous vous avons concocté trois breuvages audio. Donc, un apéro presse avec une petite revue de presse de Clément et Juanara. Un trou normand lors duquel on va recevoir Sabrina de l'équipe d'organisation du Tour Tandem Alternativa. Et enfin, dans le digestif, on aura un agenda avec plusieurs infos que vous découvrirez. En fin de démission. Alors, on commence l'apéro presse. Alors, Juanara, tu vas nous parler de Bure.
Oui, alors
une ville.
Voilà, une toute petite ville, Bure. Je pense que nos auditeurs connaissent déjà. Bure, c'est dans la Meuse. Et en fait, c'est un endroit où il y avait un laboratoire de l'ANDRA. Alors l'ANDRA, pour rappel, c'est l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Donc c'était un laboratoire qui était censé étudier donc les différentes techniques d'enfouissement de déchets radioactifs. Mais entre-temps, le statut a changé. Ils veulent en faire un vrai site d'enfouissement. D'ailleurs, l'unique, à terme, ça devrait être l'unique site d'enfouissement pour toutes les centrales françaises. Donc là, en fait, tous les déchets de France, déchets radioactifs de France, et Dieu sait s'il y en a, à peu près 1200 tonnes en plus chaque année, donc ce serait enfoui là-bas, donc à 500 mètres sous-sol.
C'est pas beaucoup, ça. Enfin, je
c'est
sais pas.
Pas beaucoup, d'autant plus que, bon, alors, ils prétendent qu'il n'y a pas d'infiltration d'eau, mais on l'a vu en Allemagne, dans des sites de la même envergure. Dès qu'on commence à creuser, il y a des infiltrations d'eau. C'est impossible d'y échapper. Il y a un lac pas très loin. Donc voilà. Donc depuis 2004, en fait, il y a des antinucléaires de France et d'Allemagne qui ont formé le collectif Bure Zone Libre, qui tente donc de lutter contre ça. J'en reparlerai un petit peu à la fin. Alors, je voulais parler spécifiquement, en fait, d'une assignation pour faute qui a été faite contre le site d'enfouissement par 6 associations, dont le réseau Sortir du Nucléaire. Ce qu'ils disent, c'est que en fait, l'ANDRA a complètement négligé un potentiel géothermique important. En somme, il y aurait en fait un potentiel géothermique important à 2000 mètres sous le sol, donc en dessous du site qui est censé servir donc à l'enfouissement des déchets. Des déchets radioactifs. Donc, tout ça, c'est basé donc sur le fait que l'ASN, donc l'autorité à la sûreté nucléaire, dit qu'un site doit être choisi de façon à éviter des zones pouvant présenter un intérêt exceptionnel en termes de ressources souterraines. Or, c'est bien le cas ici. N'oublions pas aussi que les déchets, ça dure très longtemps, 70 000 ans ou plus pour le plutonium. Donc, il se peut très bien que d'ici 500 ans, par exemple, on ait complètement oublié qu'il y a un truc enfoui là et qu'on commence à creuser à cause du potentiel géothermique et hop, on est tous irradiés. Donc, voilà.
Catastrophe.
Exactement. Donc, en fait, cette assignation pour faute a été examinée le 5 janvier par le tribunal de grande instance de Nanterre. Mais la décision, le jugement ne sera pris que le 27 mars, donc on attend. Mais ça serait bien d'en parler autour de vous. Je vous conseille d'aller sur le réseau. Donc, le site, c'est sortirdunucléaire.fr, je me semble. Au pire, vous tapez ça dans un moteur de recherche et vous trouverez. Il y a des choses à faire, il y a des lettres à envoyer, des pétitions à signer. Enfin, voilà, il y a toujours des choses à faire. C'est important puisque c'est un moyen justement de faire barrage à ce projet qui est extrêmement dangereux, d'autant plus qu'il va, s'il aboutit, en gros, il va justifier la poursuite donc, du nucléaire civil en France, puisque en gros, il y aurait un site sûr pour enfouir les déchets. Or, ça n'existe pas. On ne sait pas quoi faire de ces déchets. Hein, et comme le dit le réseau et puis plein d'autres associations depuis longtemps, la seule solution, c'est d'arrêter le nucléaire et de dépenser l'argent qu'on dépense aujourd'hui pour essayer de trouver un moyen de faire quelque chose de ces déchets. Quoi. Voilà. Bien, alors sinon, je voulais également parler...
T'as une deuxième info ?
Ouais, une deuxième...
Vas-y, je t'en prie.
Une deuxième info, okay. Effectivement, excuse-moi, j'ai cru entendre quelque chose, c'est peut-être flash. Alors le potentiel géothermique est connu depuis 1970, hein, et c'est en 2002 que des spécialistes montrent des documents qui le prouvent. À l'époque, il y a un forage qui a été réclamé par des associations, des élus, des riverains, mais ça a été refusé en 2008. Donc en gros, juste pour bien appuyer sur le fait que il y a un énorme lobby là, qui a énormément de moyens, qui fait pression contre toute démarche à l'encontre de ce projet. Il faut voir un petit peu les installations qu'il y a autour du laboratoire. Enfin, ils ont dépensé beaucoup d'argent, hein, on dit arrosé, hein, pour construire des choses, pour en gros convertir la population de Bure au projet. Donc voilà.
Il y a des gens quand même, des autochtones qui se mobilisent.
Oui, alors justement, je vais reparler donc de Bure Zone Libre. D'accord. J'avais dit que j'en reparlerais. Oui, alors en fait, en 2004, les antinucléaires en fait ont acheté un corps de ferme qu'ils ont appelé donc la Maison de Bure. Et elle a plusieurs objectifs. Et je vous conseille, si vous avez l'occasion d'y aller, donc de promouvoir une autre manière de s'organiser. Alors je lis en gros ce qu'ils ont écrit sur leur site. Hein.
On t'écoute.
Institutionnel et la vie quotidienne dans la maison. Je ne sais pas si c'était clair. En tout cas, d'offrir un soutien logistique à des actions antinucléaires diverses et faciliter le travail des collectifs locaux. Ils veulent aussi donner au grand public une contre-information sur le nucléaire et ses déchets. Et Dieu sait si c'est nécessaire. On n'a pas les moyens d'Areva et des autres grosses machines qui sont pro-nucléaires. Et aussi de devenir une vitrine en matière d'autonomie et d'énergie renouvelable, hein, puisque la maison ne dépend pas donc, du réseau électrique qui est nucléaire.
Ah, quoi. Intéressant.
Elle est chez Enercoop, entre autres. Et je crois qu'elle produit une partie de son énergie elle-même, hein, il me semble. Hein,
mais, d'accord.
Non. Donc, il y a plusieurs sites sur lesquels vous pouvez aller. Bure Zone Blog en un seul mot. Vous tapez ça sur un moteur de recherche, parce que l'adresse complète est un peu longue. Ou Bure Stop aussi, et vous trouverez plus d'infos. Il faut aller là-bas, il faut soutenir ces gens. Ils ne sont pas très nombreux, et ils sont face à un lobby très puissant. Donc, je compte sur vous.
Et de toute façon, tu es notre envoyé très, très spécial sur ce coup. Et donc, après, le 27 mars, tu nous feras un petit... Tu nous tiendrais au courant de...
Bien sûr, je suis là pour ça.
De ce qui résulte de la démarche là en justice.
Tu vas oser aller dans la Meuse et braver les campagnes désertes.
Désertes, bon, j'aime bien la nature.
Attends, ça,
j'aime bien la nature, c'est sympa.
Ah, ça dépend, quand il y a des déchets nucléaires un peu partout, c'est moins exaltant. Donc, ça nous confirme juste... Attends, je me permets juste de tirer une petite conclusion personnelle. Donc, le nucléaire, eh bien... l'ennemi juré des énergies renouvelables, puisqu'il empêche non seulement d'utiliser la géothermie ou d'autres potentiels, et en plus il prend l'argent public qui pourrait servir à autre chose que de gérer des déchets dont on ne sait que faire. Et en plus, les déchets donc, seront bien gardés au chaud, j'ai l'impression, par la Terre elle-même qui fournira sa chaleur aux scientifiques qui seront en sous-sol et aux déchets qui ne gèleront pas. C'est formidable. Voilà, donc... J'apprends complètement, je ne savais pas cette histoire de géothermie, donc c'est bien dommage. J'imagine qu'il y a des gens qui se chauffent à l'électricité dans ces villages, et donc ça aurait pu être une conversion intéressante d'avoir plutôt un petit réseau de chaleur qui permette de chauffer ces maisons dans des contrées assez froides.
Oui, alors justement, j'ai oublié de le dire, merci, tu me l'as rappelé, mais en fait, il semblerait que le potentiel serait plus important que celui qui est en Île-de-France, donc en gros, il y aurait de quoi chauffer presque 200 000 personnes, en fait.
Après, il faut qu'elle soit à côté, quoi. Mais c'est effectivement, vrai, ouais. Mais bon, c'est intéressant en tout cas pour les villages et les villes alentour.
Tout à fait.
Alors, on poursuit, Clément, avec tes investigations pour cet apéro presse.
Oui.
Alors, de quoi vas-tu nous parler ?
Alors, je n'ai pas un article en particulier. Je voulais revenir un petit peu, comme beaucoup de gens, sur Charlie Hebdo. Et sur. Alors, notamment parce que c'était plus dans le passé qu'aujourd'hui. Mais c'est un média qui parle quand même pas mal d'écologie. Bon, même si là, ces derniers temps, il était plus porté sur le combat contre les religions. Mais donc il faut quand même reconnaître, notamment à l'époque d'Harakiri, et un peu dans les années 90, début 2000, qu'il y avait une certaine véhémence contre le nucléaire, notamment dans Charlie Hebdo et Harakiri. Et alors là, c'est vrai qu'il ne reste plus beaucoup de chroniques écologiques dans Charlie Hebdo. Donc là, heureusement, il a survécu, j'ai envie de dire. Mais bon, les autres, on pense bien à eux, à tous les blessés qu'il y a eu dans cet assassinat collectif, hein, parce qu'on parle d'attentat, mais voilà.
J'aime pas le mot attentat, je crois.
Globalement, c'était quand même des assassinats ciblés, bon. Voilà, c'était pour des raisons religieuses, mais ça aurait pu être aussi pour des raisons politiques ou pour autre chose. Bon. Mm-hmm. Et le fait est que, de façon générale, hein, les médias libres, ils dérangent pas mal de monde, et voilà, faut les soutenir, que ce soit des radios, des médias écrits, etc. Donc, ouais, je voulais parler un petit peu de Fabrice Nicolino, là, qui est en train de se remettre de ses blessures, et on le salue au passage, qui garde espoir malgré ce qu'il a vécu quand même là, ces dernières semaines, et qui arrive à sortir, alors j'ai pas un article en particulier, mais qui arrive à sortir des chroniques positives sur...
Qu'on peut trouver où ?
Qu'on peut trouver sur son site internet et dans Charlie Hebdo, peut-être que la semaine prochaine, je ne sais pas. Dans celui du 14 janvier, donc le fameux qui a été tiré à je ne sais plus combien de millions d'exemplaires. Donc
5 millions.
5 millions. Bon, voilà, j'en ai un sous les yeux qui nous dit voilà, il n'y a pas d'ailleurs. Il n'y a pas d'ailleurs, en fait. On est sur la même planète. On est même à la campagne. On est relié, en fait, à tout un tas de décisions internationales et de technologies qui nous dépassent. Et aujourd'hui, bon, les frontières, elles existent physiquement, effectivement, pour notamment les migrants qui voudraient aller dans des pays plus riches et qui se voient refuser l'accès. Mais d'une certaine façon, il y a aussi les frontières qui n'existent plus, qui ne mettent plus à l'abri de certaines choses, notamment le changement climatique... la réinfection des ressources, etc. Et donc Nicolino, il nous dresse un portrait quand même positif. Il nous dit que voilà, globalement, malgré les difficultés rencontrées, etc., il y a, je sais pas si c'est l'union sacrée là qui lui a un petit peu fait du bien, parce qu'il est peut-être un peu malade aussi par moment. Un petit peu sonné. Ouais, l'union nationale, là où tout le monde se serre les coudes et tout, on est tous copains. Bon, je sais pas si c'est ça, mais. Il a un optimisme au-delà de voilà, il dit bien de se méfier de tous les politiques, quels qu'ils soient, et qu'on peut faire de grandes choses ensemble. Donc, de façon plus poussée, bon, il a fait quand même des enquêtes sur la viande, sur un certain nombre de multinationales, voilà. Et je vous invite en fait à relire ces chroniques en fait qui sont publiées dans Charlie Hebdo mais qui met en ligne sur son site internet. Donc c'est Fabrice-du-6 Nicolino Nicolino.com. Et donc le site s'appelle Planète sans visa. Donc avec un regard assez transversal sur l'écologie, sur voilà un peu des choses qu'on apprend sur notamment des plages qui disparaissent, le tourisme de masse qui finalement saccage, mais aussi commence à disparaître aussi parce que les conditions ne sont plus remplies partout pour le permettre. Donc voilà, je vous invite à lire ces chroniques sur son site internet ou acheter des médias libres régulièrement pour soutenir la presse. Charlie Hebdo, ça va maintenant, ils sont renfloués, je pense qu'au niveau de leur caisse. Mais il y a aussi des journaux comme CQFD qui ont besoin
CQFD
de sous.
CQFD qui est bien sympathique, il y a la revue Silence.
Qui régulièrement voilà, font des chroniques aussi sur les ads, sur un regard assez décalé là-dessus. La revue Silence, effectivement, qui parle beaucoup d'écologie et d'alternatives.
La revue Fakir aussi.
Voilà, Fakir.
Passerelle éco, l'utopique.
Plus social, mais aussi écologique. Très bien. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lire ce genre de canards. Et il ne faut pas attendre forcément qu'il y ait des événements dramatiques pour soutenir ce genre de cause. Voilà, voilà.
Merci Clément. Donc on poursuit avec Juanara et la chronique anti-pub. Alors Juanara, tu vas nous parler des veilleurs de nuit.
Des veilleurs de nuit, ouais.
C'est quoi ça, les veilleurs de nuit ?
Alors les veilleurs de nuit, c'est un collectif en fait qui a été fondé très récemment, en septembre 2014. Par trois associations, Résistance à l'agression publicitaire, RAP.
Nous connaissons bien,
voilà. Agir pour l'environnement et les jeunes écologistes, voilà. Mm-hmm. Les actions des veilleurs de nuit, c'est un peu ce qu'a fait autrefois le clan du Néon, mais il y a un petit truc en plus. Alors, en gros, il s'agit d'éteindre les enseignes lumineuses des magasins, une fois les magasins fermés. Depuis le 1er juillet 2013, en fait, les commerces et les bureaux ont l'obligation d'éteindre, hein, mais entre 1h et 6h du mat. Et alors que les commerces ferment en général bien plus tôt, hein, même pour ceux qui ferment tard, c'est quand même bien plus tôt qu'une heure du mat. Donc nous, les veilleurs de nuit, on réclame que ces extinctions prennent effet à partir de 22h30 au plus tard. Et que de vrais contrôles en fait soient menés pour que la réglementation soit respectée, parce que il faut rappeler quand même que c'est une gabegie hallucinante ces enseignes qui restent allumées.
En quoi c'est un problème ?
Alors énergétiquement déjà pour commencer, c'est pas comme si l'électricité venait de sources renouvelables, on vient d'en parler, ça vient du nucléaire, donc il n'y a pas de raison que ça reste allumé. Ça c'est le premier point écologique, mais il y a aussi que c'est une agression visuelle et mentale puisque c'est quand même de la publicité, hein, une enseigne qui reste allumée. Moi, quand je me balade, j'ai pas envie d'être rappelé tout le temps qu'il existe une marque de machin qui veut vendre telle chose. Non, j'ai envie d'être tranquille. Donc, il y a beaucoup de raisons. Comment ?
Petite question. Est-ce que les sex shops qui clignotent doivent être éteints la nuit ? Ça me turlupine un peu.
Alors, nous ne faisons pas de discrimination. Toutes les enseignes qui sont qui, pour un magasin fermé, bien sûr, on est d'accord. Hein.
Pareil pour les épiceries qui dépannent quand tu cherches de la bière à 2h du
matin. Si elles sont ouvertes, non. On est d'accord, c'est le commerce fermé. Hein, oui.
D'accord.
Si le commerce est fermé, dans ce cas-là, l'enseigne est éteinte. Voilà. Et puis aussi, si on est en plein jour, l'enseigne est éteinte aussi. Mais oui. Et alors voilà, donc ça c'est déjà quelque chose que demandait le clan du Néon. Mais nous, en fait, on veut agir également sur le mobilier urbain.
Tu dis nous, donc tu en fais partie.
J'en fais partie, je me suis trahi. Oui, bon, de toute façon, je vais parler d'ailleurs des deux actions qui ont lieu et auxquelles j'ai participé. En fait, on veut faire quelque chose par rapport au mobilier urbain. Le mobilier urbain, c'est les abribus, c'est les sucettes... Et puis plein d'autres choses encore, des choses qui souvent des panneaux, des trucs rétroéclairés ou déroulants qui restent allumés toute la nuit et qui jusqu'à maintenant échappent à toute réglementation. Alors là, pour le coup, la loi de juillet 2013, elle peut rien contre tout ça. Et là, les mêmes arguments que contre les enseignes, je peux utiliser les mêmes, sauf que même en pire, puisque là, en l'occurrence, le gâchis d'énergie est bien plus important et l'agression visuelle et mentale est bien plus importante.
Même la pollution lumineuse.
Tout simplement, oui.
Il y a un problème pour la biodiversité, les écosystèmes, tout ça, ça perturbe tous les êtres vivants.
Effectivement, ouais. En ville, il en reste. mais tout à fait. Et puis plus égoïstement aussi, les automobilistes sont gênés par ça aussi. Il peut y avoir des accidents à cause de ça. Ouais. Donc voilà, donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on éteint les enseignes, alors à l'aide de perches, de parapluies et compagnie, puisque les boîtiers pour ces enseignes se trouvent en extérieur, c'est obligatoire, puisque les pompiers doivent pouvoir y avoir accès. Et aussi, on recouvre donc le mobilier urbain avec des bâches, voilà.
D'accord. Donc là, il y a eu deux actions, tu peux nous faire un...
Oui, en fait, il y a
bilan de ces actions qui se sont passées la semaine dernière.
La semaine dernière, oui. En fait, la semaine dernière était une semaine de mobilisation nationale. Alors là, je n'ai pas eu beaucoup de retours encore d'autres villes, mais ça ne devrait pas tarder. Je vous conseille d'aller sur le site de rap, antipub.org, hein, pour aller voir tout ça. Mais sur Paris, il y a eu deux actions, oui. Alors, il y en a une le 21 janvier, où c'est organisé par RAP cette fois-ci, principalement sur la rue de Rennes. Bon, c'était une petite action, hein. On a dû éteindre une vingtaine d'enseignes et recouvrir 5 mobiliers urbains, donc c'est vraiment pas grand-chose. Mais elle a été assez visible, puisque l'un des militants a une bonne idée. Il a en fait fait des espèces de pochoirs. En gros, la lumière du dispositif faisait apparaître le message une fois que la bâche était posée. Donc c'est soit un message, soit un dessin. Donc c'était assez visible, donc ça a un peu tourné sur les réseaux sociaux. Ensuite, il y en a une autre action le 23 janvier, cette fois-ci organisée par les jeunes écologistes. Hein, ils étaient un peu plus nombreux, donc là, ils ont réussi à éteindre une centaine d'enseignes et puis recouvrir, je crois, une dizaine de mobilier urbain avec des bâches. Alors, ils n'avaient pas découpé les bâches, donc du coup, c'est au marqueur qu'ils ont écrit des messages sur les bâches. Donc, aucune action dégradante, encore une fois. Nous ne sommes pas en dehors de la légalité ici. Voilà. Alors, n'oubliez pas ces actions des veilleurs de nuit. Il n'y a pas besoin de faire partie d'une des assos pour les faire. Vous ne risquez vraiment pas grand-chose. Jusqu'à maintenant, j'entends jamais entendu parler de quelqu'un qui a eu des ennuis parce qu'il a éteint une lumière. Donc, n'hésitez pas à le faire vous-même, dans votre rue, quand ça vous dit. Ça fera du bien à vous, à votre commune et à l'environnement.
Mais merci, Juan Ara, pour cette chronique anti-pub et écolo, puisque tout est lié. Donc on finit cet apéro presse et avant d'enchaîner avec notre trou normand et un entretien avec Sabrina du Tour Alternativa, on va faire une rapide pause musicale si c'est possible, Cyril, avec Jules Bocarne, La Révolution passera par le vélo.
La révolution passera par le vélo, camarade. Ah, la bicyclette. Elle te permet d'aller 5 fois plus vite que le piéton. Tu dépenses 5 fois moins d'énergie et tu vas 5 fois plus loin. En vérité, je te le dis, camarade, la révolution passera par le vélo. Ce coup-ci, ça va d'aller. Elle vit monde va skater, terre tout un chêne, Noda l'on le fait péter, ce coup-ci ça va d'aller, elle vit monde va skater, terre tout un chêne, Noda l'on le fait péter.
Donc salut à tous, vous êtes toujours sur Radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3, dans l'émission Zoom Écologie avec la bande La Bébère. Et donc on poursuit notre émission avec le Trou Normand et nous accueillons Sabrina. Salut Sabrina.
Salut à tous.
Donc on va parler du Tour Tandem Alternativa. Ouais. Donc, pour faire une petite introduction, puis après on va en parler davantage. Donc, on peut déjà dire qu'en 2013 à Bayonne, donc l'association BC a organisé un Alternativa. Donc, c'est un village des alternatives pour le climat et la justice sociale, qui était notamment parrainé par Stéphane Hessel. Et donc, ce village des alternatives a été un gros succès. Donc, ça a duré une journée. Et il y a eu un appel à en créer 10, 100, 1000. Et donc là, ça pousse comme des champignons, on va dire. Il y en a deux partout, des alternativas. Et donc toi, tu es là pour nous parler du Tour Alternativa, Tour Tandem. Alors, c'est quoi ça?
Donc déjà, ce Tour Alternativa, effectivement, Tour Tandem, c'est dépassé comme appellation. Donc Tour Alternativa, si tu veux, pour tout le monde, c'est la suite logique du processus Alternativa. En termes de contexte, un petit peu, le Tour Alternativa, ça arrive là au niveau politique, environnemental. On est tous conscients, je pense que votre émission, en plus, elle est quand même axée écologie. Donc tous les auditeurs le savent, au niveau de l'urgence climatique, on est dans un moment où réellement, il faut passer à l'action. On a déjà beaucoup de signaux d'alerte qui nous montrent que l'urgence s'accélère. Au niveau des politiques, on attend des accords ambitieux déjà depuis Copenhague, donc depuis 2009. Ça n'a pas été le cas et depuis, en fait, toutes les COP qu'il y a pu y avoir n'ont pas été satisfaisantes du tout.
Alors, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi une COP?
Alors, COP, du coup, donc, c'est le sommet de l'ONU qui regroupe tous les décideurs des États et qui les centralise pendant un temps de négociation et de tractation destiné normalement à ce qu'ils puissent se mettre d'accord tous ensemble sur quelles politiques ils vont pouvoir ramener en rentrant chez eux pour améliorer leur gestion interne au niveau de l'écologie, du climat. Et donc voilà, ils sont censés se retrouver ensemble et puis prendre de grandes mesures pour agir et puis vraiment être en accord avec tout ce qu'on a pu observer. Le rapport du GIEC, là, le dernier, donc qui sont les gens, on va dire, des experts du climat qui se regroupent et qui arrivent à faire des études chiffrées, argumentées et avec des scénario de projection sur 2020, 2050, 2100. et qui sont en train vraiment de nous dire qu'on a un gros souci et qu'on est en train d'aller vers une augmentation de la température globale de la planète qui donnera, en termes de vie sur notre planète, de gros soucis. Et on a déjà tout ce qu'on a pu observer en termes de catastrophes climatiques. On le connaît, que ce soit ailleurs ou en France. Pardon. Et après, on va avoir tous les problèmes qui vont être plus d'ordre géopolitique avec toutes les flux de migration des réfugiés climatiques qui vont aussi être un gros problème à gérer. Donc voilà, on a tout ce contexte politique environnemental. Et Procis Alternativa, là-dedans, c'est arrivé en France. On s'est dit, nous, on peut vraiment faire quelque chose pour que le climat, ce soit un sujet central, pour que les gens ils puissent rentrer dans cette bataille climatique. Et puis s'en intéresser, s'en emparer et surtout aussi mettre en avant le fait que sur le territoire français et partout ailleurs, en fait, il y a beaucoup de gens, de militants qui, tous les jours, sont en train de construire des alternatives, les mettre en pratique. Et on a tout un panel possible d'alternatives qui existent et qu'on peut utiliser, s'approprier pour changer son quotidien et être beaucoup plus respectueux de l'environnement et du coup agir en faveur de cette urgence climatique et aussi construire une société qui sera plus juste socialement, parce que heureusement, ça va de pair, donc on a tout à y gagner.
D'accord. Et alors, le Tour Alternativa, exactement. Donc, il y a un vélo dans l'histoire. Est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce que ça va être le Tour Alternativa?
Oui. Donc, le Tour Alternativa, du coup, il partira le 5 juin de Bayonne et va traverser villes et villages de France et puis de 5 pays européens donc adjacents, donc Suisse, Luxembourg, Belgique, etc. On passera en Allemagne aussi. Et du coup, c'est le symbole de tout de 5000 km qu'on va parcourir donc entre Bayonne et je vous ai pas dit l'arrivée. Donc l'arrivée, ce sera fin septembre à Paris. On va faire une grande boucle en descendant par Bordeaux et en finissant par arriver à Paris fin septembre. Et le symbole, l'objet qui va parcourir 5000 km avec tout le monde, ce sera le tandem 4 places. Donc, tandem 4 places, on va avoir 4 personnes qui vont se relayer et qui vont pédaler là-dessus. Et vraiment, l'image qu'on veut donner, ce qu'on veut symboliser, c'est l'effort collectif. Et du coup, le fait de pédaler ensemble, il y a aussi l'aspect transition écologique, le mode déplacement vélo qui veut dire beaucoup de choses dans un monde où aujourd'hui, on connaît quasi uniquement que la voiture. Donc voilà. Et ce tour va faire 5000 km. On fera 2 étapes par jour en moyenne, la plupart du temps. Donc on va s'arrêter, on a plus de 188 étapes sur plus de 90 territoires. Et à chaque fois, ce sera vraiment... Alors il y a le parcours en lui-même, donc il va faire 5000 km. Mais à chaque fois, vraiment, les événements et les temps forts du tour, ce sera à chaque fois les étapes qu'on va faire. Donc c'est 2 fois par jour. Il y aura beaucoup de vélos à chaque fois qui vont nous rejoindre.
D'accord.
Des étapes en ville.
Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'étapes, pour savoir un petit peu qu'est-ce qui va se passer lors de ces étapes? Est-ce qu'il y aura des événements? Est-ce que ce sera la rencontre d'alternatives?
Oui, alors du coup, donc ces étapes, ça... Vraiment, l'objectif numéro 1, c'est d'arriver à toucher le grand public. Et du coup, c'est d'offrir vraiment une manifestation qui soit la plus ouverte possible. Et aussi d'arriver à s'appuyer sur ce qui existe déjà, donc les réseaux locaux existants. Et du coup, on fait tout un travail là, de préparation en amont avec ces réseaux locaux. Donc nous, l'objectif, c'est quand on va arriver sur notre super vélo 4 places, on aura notre vélo, on sera normalement un petit paquet de cyclistes autour à accompagner tout ça avec des vélos classiques et puis certains vélos un peu plus un peu différents comme les vélos cargo ou les vélos couchés. Et on va arriver en fait... Un petit peu avant l'arrivée dans la ville, il y aura une grosse vélorution. Donc à chaque fois qu'on arrive dans une ville, il y a un point en amont, environ 5 km. On fait un grand appel relayé sur place par tous les réseaux locaux. Et tous les gens qui veulent bien venir se joindre font la vélorution sur les 5 derniers kilomètres pour l'arrivée en ville. Et là, donc, on arrive tous ensemble. Et on arrive sur un endroit où tous les gens du coin auront fait un petit stand ou un petit quelque chose où ils vont exposer leur travail, montrer comment au quotidien ils travaillent sur les alternatives et sur un monde plus respectueux. Et après, autour de ça, il y aura donc toutes les animations que les gens vont préparer sur place, un temps de repas, que ce soit le midi ou le soir, donc d'échanges, de discussions. Et nous, ce qu'on amène, on amène un petit peu une expertise. On va à chaque fois ouvrir en parlant en une conférence sur le climat. Donc vraiment beaucoup d'informations sur le climat, sur pourquoi il faut absolument s'en préoccuper. Et tout un temps d'échange avec les gens pour parler de ça et de l'urgence climatique. et de qu'est-ce qu'on peut faire, nous, individuellement et collectivement aussi, pour avancer là-dedans.
Et donc, le Tour Tandem, donc tu m'as dit, part de Bayonne le 5 juin, qui est la journée, ouais, le jour de la Journée mondiale de l'environnement. Ça. Et donc, ça arrive, il arrivera à Paris le 26 septembre 2015. Et donc, donc cette date correspond à quelque chose, il me semble.
Oui, ça correspond à quelque chose. Il y aura deux grandes choses qui vont se passer ce jour-là. Donc, ça correspond aussi à la journée de la transition citoyenne, d'une part. Donc, qui sera un événement en soi, parce que symboliquement aussi, la transition citoyenne, voilà, c'est toujours ce pas vers les alternatives. Et aussi, grand événement à Paris, il y aura Alternativa, Île-de-France, qui aura lieu ce jour-là, et qui se déroulera sur un week-end. Et nous, on aura la chance, la joie, le grand bonheur d'arriver, dans la journée du samedi, et sur Alternativa Île-de-France. Donc, ce sera un grand événement. Je pense que ce sera le plus grand Alternativa de France, forcément, de par la mesure. Et puis, je crois qu'il y a toute une équipe qui travaille dessus, sur l'île de France, pour en faire un événement vraiment très particulier. Il y a 50 000 personnes attendues d'ores et déjà, je crois, donc ça va être quelque chose.
Et ce sera, donc l'arrivée sera aussi juste avant la COP21, donc, qui aura lieu à Paris.
Ouais.
Et donc là, je crois qu'il y a des gros enjeux par rapport à cette COP21. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
La COP21, donc là, c'est la dernière COP vraiment importante, on va dire, en termes d'attente des décideurs de passer un accord ambitieux. On a l'échéance 2020 en termes d'urgence climatique, d'action, et là il va vraiment nous rester 5 ans pour élaborer un plan, pour poser des choses réellement sur la table et puis pour les mettre en action. Donc 5 ans, c'est très très court, à la fois ça laisse quand même le temps d'agir. Et là, nous, c'est pour ça que cette année, on a voulu lancer ce Tour Alternativa. C'est vraiment un processus de réflexion. On a voulu préparer un événement d'ampleur nationale et même européen pour faire une pré-mobilisation en vue de la COP21, parce que cette année, ce sera en France. Tous les médias, tout le monde va parler du climat pendant toute l'année. On va nous rabâcher ça en long, en large, en travers. Et aussi, on va nous parler de tout ce qui est fausses solutions, les marchés carbone, etc. On va nous les présenter comme la panacée. Et nous, on voulait vraiment être là sur le terrain avec la population pour dire que déjà, d'une, on peut se mobiliser, parce qu'il ne faut pas tout attendre de ces événements politiques qui en soi doivent exister, mais qui ne sont pas suffisants à eux seuls. Donc nous, on doit être là, on doit se mobiliser, on doit pour ça être informé. Et du coup, cette prémobilisation, elle sert vraiment à ça, à faire ce réseau et à faire cette sensibilisation pour qu'on puisse arriver au mois de décembre avec des gens qui seront déjà prêts à en découdre et qui auront déjà toute une notion de qu'est-ce que sont les vraies alternatives et surtout l'envie de les mettre en place et en pratique.
Bon, ben dis donc, ça fait rêver tout ça. Et donc là, tu nous as déjà présenté un petit peu le tour, tu nous as parlé d'information, de mobilisation citoyenne. Donc nous, voilà, à la bande d'Abébert, on a déjà fait quelques émissions sur des actions comme ça à vélo. On a notamment parlé de l'Alter Tour, donc, voilà, c'est un groupe qui chaque été fait un tour des alternatives en France. On avait aussi, je crois, parlé un peu de l'Ecotopia Bike Tour. Donc là, c'est plutôt un groupe en autogestion qui fait un tour en Europe, pareil, un peu d'alternative. Et qu'est-ce qui caractérise là le Tour Alternativa, et est-ce qu'il est complémentaire de ces groupes,
de ces... Alors, effectivement, je pense. Après, déjà, pour la précision, donc l'Alter Tour, du coup, on va faire quelques étapes ensemble, là, pendant l'été. On les retrouvera au Luxembourg et puis sur Charleville-Mézières. Après, nous, ce qui nous caractérise vraiment avec le Tour Alternativa, c'est cet aspect, donc, du coup, prémobilisation de très grande ampleur. Parce que nous, là, on va vraiment faire un grand paquet de kilomètres, un grand paquet d'étapes. On s'est pris un grand paquet de temps à l'avance pour essayer de vraiment de mobiliser de façon très large sur chacune des étapes qu'on va faire, pour vraiment agiter un petit peu tous les réseaux et les mettre en branle et qu'ils soient tous là, mobilisés pour accueillir le tour. Du coup, par répercussion, on va dire qu'on va aussi avoir tenté de mobiliser le maximum de public à chaque fois sur chacune des étapes. Donc on va vraiment essayer, on va dire, de ratisser large en termes de public. Et nous, notre objectif, c'est de passer le cercle des militants convaincus, on va dire, parce que c'est quelque chose qu'on a, je pense, pu tous observer dans notre vie militante. C'est parfois un peu compliqué d'arriver à toucher le grand public, d'arriver à parler aux gens qui ont leur quotidien déjà bien chargé et bien rempli. Et nous, c'est vraiment là l'objectif. On veut aller toucher ce grand public-là, on veut aller les chercher dans leur quotidien en leur disant que vraiment, il y a des choses qui sont accessibles en termes d'alternatives. Et donc on a vraiment orienté notre préparation là-dessus. Et après, ce qui nous caractérise aussi spécifiquement, c'est que toutes les alternatives qu'on va présenter, elles ont toutes pour particularité d'être autour de l'axe des réductions de gaz à effet de serre et vraiment sur l'axe du climat. Puis après, c'est vrai que les alternatives, il y en a toute une pléiade. Et nous, vraiment, c'est autour de l'axe climat.
Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'alternatives que vous allez valoriser?
Il y en a beaucoup, heureusement. Par exemple, on a le réseau AMAP, qui est un réseau qui est devenu très étendu, là, qui a connu un grand essor ces dernières années. Il y a beaucoup de gens il y a beaucoup plus de gens qui savent ce que c'est qu'une AMAP, donc l'agriculture aide au maintien de l'agriculture paysanne, mais il n'y a pas encore tout le monde qui le sait. Et en fait, ce fonctionnement-là alimentaire qui permet de remettre en marche des circuits courts, donc en permettant d'être un client régulier d'un agriculteur qui est sur son territoire, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très très bien, qui est en plein essor et qui mériterait encore une plus grande visibilité. Donc il y a par exemple ça. Après, en termes d'habitat, on a vraiment aussi des nouvelles façons autour de l'habitat de gérer, que ce soit en termes de matériaux de construction, de techniques, ou alors même de types d'habitat, avec des habitats partagés, des habitats collectifs. Ça se fait de plus en plus, il y a de plus en plus de gens qui passent le pas et qui réfléchissent à des logements où ils vont avoir une mutualisation des biens qu'on a tous chez nous, comme la machine à laver, le sèche-linge, etc. Est-ce qu'on a vraiment, dans le fond, besoin d'avoir chacun cet électroménager-là, ou est-ce qu'on pourrait le partager et puis, du coup, avoir un côté convivialité et puis récupérer un petit peu de son argent qu'on dépenserait chacun pour en faire autre chose, et, etc. Donc voilà, le genre d'alternatives qu'on peut rencontrer. Après, il y en a plein d'autres. Le vélo, ça fait partie aussi, hein, dans les façons de se déplacer, des alternatives à mettre en avant, avec les transports en commun, bien sûr. Voilà, par exemple.
Ben, c'est vrai que déjà, vous êtes à vélo, donc vous êtes déjà dans l'alternative, hein, rien que dans l'action. Au niveau de la participation, qui est-ce qui va participer concrètement au Tour Tandem? Est-ce que tout le monde peut venir... est-ce que tout le monde pourra venir pédaler à vos côtés, ou c'est uniquement lors des 5 km qui précèdent l'arrivée dans une étape?
Alors, tout le monde est bien sûr chaudement appelé à venir nous rejoindre avec grand plaisir. Je pense que de toute façon, les 5 000 km, ça va quand même être long, même si on a beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie et beaucoup de volonté. Donc, les gens qui ont envie de venir partager ces kilomètres avec nous sont bien sûr les bienvenus. La seule chose à respecter, c'est d'être dans ce mode alternatif de déplacement, donc de ne pas être motorisé. Après, d'essayer d'être au rythme aussi du vélo, donc à pied, c'est un peu compliqué du coup, mais de trouver un mode de déplacement qui puisse être dans le même rythme. Et là, il n'y a pas de problème, bien sûr, c'est ouvert avec grand plaisir. Et après, même, je pense qu'on lancera des appels, parce qu'il y a des choses qui se sont vues avec les vélos. On a The Pleasant Revolution qui avait fait une tournée où ils avaient embarqué leurs instruments dans des vélos cargo, etc. Donc pourquoi pas faire des appels s'il y a des gens qui veulent venir et transporter leurs instruments, qui veulent venir être sur le tour et écrire et filmer et juste être là, juste participer. Enfin, vraiment, tout le monde peut venir et seront les bienvenus, au contraire. Okay. Et pour venir, du coup, vous pouvez aller sur le site Alternatiba. Mm-hmm. Vous avez une section Tour Alternatiba, comment participer. Et là, vous avez tout ce qu'il faut pour soit nous contacter, soit pas mal de renseignements à prendre pour vous informer.
D'accord. C'est cool. Alors, Clément a une question.
Oui, je suis désolé, j'ai pas entendu tout ce que tu as dit précédemment. Je voulais juste savoir si le tour, les étapes étaient déjà toutes calées, s'il y avait des évolutions possibles ou s'il y a des propositions possibles en termes d'étapes à venir.
Alors, les étapes, elles sont quand même déjà toutes relativement calées depuis le mois de novembre dernier, parce que c'est vraiment quelque chose qui met pas mal de temps à se mettre en place. Après, on a encore un tout petit peu de souplesse, on va dire, si c'est pour changer à quelques kilomètres près sur certaines des étapes. Ça peut arriver, là, on est encore dans vraiment l'organisation et la logistique du tour. Mais a priori, les 188 étapes sont quand même définitivement arrêtées, sauf exception. Et vous avez le parcours, d'ailleurs, qui est en ligne sur le site Alternatiba, aussi pareil dans le tour.
Alors j'ai vu aussi.
Il a répondu à ta question.
Il a répondu à ta question.
Oui, oui, tout à fait. Je te remercie. Et j'ai vu les étapes et on sait quelles sont les alternatives concernées à chaque ville ou c'est à découvrir au fur et à mesure.
Alors ça, c'est à découvrir au fur et à mesure, d'autant plus que vraiment nous, on est surpris agréablement parce qu'en faisant ce travail de préparation, on se rend compte que en fait, il y a vraiment énormément d'alternatives qui pullulent de partout. Et c'est hyper stimulant, c'est hyper grisant. Et je pense que vraiment, à chaque fois, déjà, il y a des gens qui... Nous, on rentre en contact avec certaines personnes qui eux-mêmes ont leur propre réseau sur place. Mais après, ce qu'on peut observer, c'est qu'on met de plus en plus de réseaux en contact les uns avec les autres. Et du coup, il y a des nouvelles alternatives qui arrivent, etc. Et je pense qu'on aura vraiment des belles surprises sur les étapes. Et même nous, on ne sait pas encore tout ce qu'il y aura au programme parce que les gens ne sont pas tous encore au courant dans leur ville quand on va passer. Et vont se rapprocher petit à petit. On a quand même encore quelques mois avant le départ du tour. Et du coup, tout ça, c'est encore en train de se mettre en place.
Et j'ai vu aussi sur le site que vous avez besoin de financement et que vous lancez un appel à dons par Internet ou crowdfunding. Moi, je ne sais pas le dire en anglais.
C'est parfait.
Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce crowdfunding?
Ah oui, parfait l'accent. Oui, alors le crowdfunding, justement, donc c'est ce qui permettra au vélo tandem 4 places de partir le 5 juin parce qu'effectivement, donc on a les 188 étapes, les 4 mois sur la route, tout ce qu'il y a de logistique autour, de communication, etc. pour en faire vraiment ce grand événement de mobilisation accessible pour tous. Et du coup, là, ça fait depuis le 3 décembre qu'on est dans cette campagne crowdfunding qu'on a appelée campagne coup de pouce. Donc c'est vraiment tous les petits coups de pouce pour aider le vélo à partir de Bayonne et à se lancer sur la route des alternatives. Et là, donc ça fait depuis le 3 décembre qu'on travaille comme des petits fous jour après jour pour faire en sorte que le projet soit connu et que les gens puissent du coup le soutenir. Aujourd'hui, on est très content parce qu'on est quasiment à la fin du crowdfunding. Enfin, c'est pas pour ça qu'on est content, mais on est à J-4 donc de la fin du crowdfunding. Et en fait, on a eu là ces derniers jours un espèce de sursaut de mobilisation autour du crowdfunding. Et alors, on est encore loin du compte. On est à 81,28% là au moment où je vous parle, je baisse mes yeux. Et on est à 1140 soutiens. Il nous manque encore donc quasiment 20%. Et on appelle vraiment tout un chacun qui ce soir nous écoute si jamais il est dans l'idée de cette construction nous on est vraiment dans cet état d'esprit de créativité, de mise en avant de la construction, de positiver toutes les choses qui existent. Bah, on les encourage vivement à nous donner un coup de pouce. C'est à partir de 5 euros, donc vraiment, chaque euro compte. Et nous, on espère de tout cœur que dans 4 jours, on sera arrivé à 100%. Et pour ça, n'hésitez pas donc, à donner votre coup de pouce perso et puis à en parler autour de vous, à la famille, aux amis. Voilà, le Tour Alternativa est presque sur la route, mais il nous manque encore un petit bout de chemin et il reste plus que 4 jours pour nous aider.
Et si des personnes veulent vous aider, comment qu'elles font?
Bonne question, c'est vrai. Donc elles vont sur le site Alternativa, ça c'est le plus simple. Et là, du coup, il y a tout ce qu'il faut, il n'y a plus qu'à cliquer. Et on tombe sur le site du crowdfunding avec l'explication de qu'est-ce qu'est le tour, de comment on va le faire, avec quelques petites vidéos, avec tous nos soutiens, parce qu'on a plein de chouettes soutiens. Monsieur Essel qui nous a quittés, mais on a Christiane Essel qui vraiment nous suit de près, qui est derrière nous, et ça, c'est super. Et après, on a pas mal d'autres personnes. Et du coup, on va sur le site, on clique sur « Contribuer », et puis là, on peut donner la contribution de son choix, on choisit la contrepartie ou pas. Et si on n'a pas de carte bleue, comme moi, hein, c'est le cas aussi, on peut envoyer un chèque directement. Il y a toute la marche à suivre qui est sur le site de Alternativa.
Ben merci, Sabrina.
Si je peux rajouter, je pense aussi, c'est vrai que les gens qui ont envie de nous aider là pour les 4 derniers jours, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur les réseaux sociaux parce que Facebook et Twitter, c'est quand même une façon aujourd'hui de populariser l'information. Et du coup, n'hésitez pas à nous rejoindre, à venir et puis à partager toutes les petites vidéos, tout ce qu'on a préparé pour parler du tour. Ça nous aidera d'autant plus.
D'accord, bah donc merci. Donc on rappelle, donc c'est le Tour Tandem Alternativa, donc qui parcourra 5000 km du 5 juin au 26 septembre, en France et au-delà même. Et donc si les auditeurs et auditrices veulent vous donner un petit coup de pouce financier pour contribuer à cette action, donc il faut aller sur le site alternativa.com. www.tourpandennes.eu. Mais merci, moi j'ai posé toutes mes questions.
Et merci beaucoup, ben non, mais nous on n'a pas mieux. T'as tout posé, t'es parfaite.
Est-ce que t'as des choses à rajouter que j'ai oublié de demander? C'est bon?
Et moi je peux juste vous faire une grosse big up, vous dire un grand merci. Merci Élise, merci l'équipe et puis merci pour votre travail, c'est chouette. Bravo.
Ben merci. Bon, ben salut Sabrina, et bon courage.
Bon courage pour la suite.
Merci beaucoup, à bientôt.
Donc avant notre digestif agenda, on va passer une petite chanson. Alors Cyril, est-ce que tu nous as préparé quelque chose? Attention, on va voir la surprise. Alors vous êtes toujours sur Radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 dans l'émission Zoom Écologie avec la bande d'Aveber. Et nous venons d'écouter...
Vous aurez reconnu Jamiroquai, c'était Emergency on Planet Earth. Superbe accent, n'est-ce pas ?
Merci Clément.
Et donc c'était un morceau de 1993, juste après le sommet de la Terre à Rio, souvenez-vous. Et oui, c'est déjà un peu vieux. Et ça voilà. Et l'urgence sur la planète Terre est toujours là, plus que jamais.
Très bien. Et donc, pour ça, il faut agir. Et pour agir, il faut faire des choses. Et c'est le moment d'avoir notre digestif, l'agenda. Donc, nous avons nous avons trois rendez-vous essentiellement à vous communiquer. Alors, tout d'abord, on peut parler du forum social à Ivry-sur-Seine, qui porte sur le thème du climat. Donc, il aura lieu le mardi 3 février à 19h. Donc, avec deux questions, où en sont les négociations climat et où en sont les rendez-vous Alternatiba en Ile-de-France ? Tiens donc. Donc, ce forum social à Ivry-sur-Seine aura lieu au local du FSI, qui se trouve centre commercial Jeanne Hachette, 10 promenée Gérard Philippe. Ensuite, on a un autre rendez-vous. Donc, Juanara, peut-être tu peux nous en parler. C'est les reposeurs. Alors, Kézako, comment qu'ils font et quel est le prochain rendez-vous ?
D'accord. Oui, donc, rapidement, les reposeurs, c'est un collectif parisien. Vraiment parisien, puisqu'il agit dans le métro. Alors, les actions, c'est un petit peu à mi-chemin entre ce que fait une association comme RAP ou un collectif comme les Déboulonneurs. Donc, c'est pas totalement légal, mais c'est pas illégal comme par exemple les actions des déboulonneurs. Il s'agit en fait de poser des papiers, des papillons on dit, ou des affiches sur la publicité dans le métro afin donc de sensibiliser ou en tout cas de faire en sorte que les Parisiens se joignent à nous, puisque une majorité de Parisiens en fait a dit qu'ils ne souhaitaient pas avoir autant de publicité dans le métro et qu'ils étaient favorables à une réduction du format. D'ailleurs, c'est la revendication des reposeurs. Ils veulent des formats réduits, donc 50 x 70 cm, et pas plus qu'un panneau de 2 mètres carrés par station, au lieu des 144 mètres carrés en moyenne par station qu'il y a dans le métro parisien, ce qui est la plus grande concentration dans le monde d'ailleurs. Voilà. Alors n'oubliez pas en plus que la pub, ça ne rapporte quasiment rien à la RATP, moins de 2% de son budget. Donc c'est inutile, ça fait beaucoup de mal. Et donc voilà. Alors les reposeurs vont en fait faire un atelier demain en fait, hein. Demain à 20h.
Ah bah, faut être au taquet là.
Voilà, exactement. Un atelier pour préparer justement ces fameuses affiches chez Petit Papillon qu'on va coller dans le métro. Le rendez-vous est à 20h au métro Mairie d'Ivry sur la ligne 7. Donc soyez à l'heure puisqu'on va bouger. Hein. Donc il y a écrit 20h, mais essayez d'arriver 10-15 minutes avant, non, mais pour être sûr de ne pas rater le coche. Voilà, il s'agira d'élaborer des papillons, des affiches à poser lors d'une action qui, elle, aura lieu le 14 février.
Des papillons,
oui. Les papillons, c'est parce qu'on ne va pas citer une marque qui fait des petits carrés jaunes qu'on colle. Voilà, donc au lieu d'appeler ça ce que je ne peux pas dire, on appelle ça des petits papillons repositionnables.
Très bien.
C'est des petits bouts de papier qu'on peut coller. Voilà. Donc l'action aura lieu le 14 février à 13h59 au métro Saint-Ambroise lors d'une ignoble fête commercialisant l'amour dont je ne citerai pas. Voilà.
Ils ont osé.
ça existe. Donc, tous ces jolis papillons et jolies affiches qu'on aura préparées et que vous aurez sans doute préparées demain, eh ben, ça sera l'occasion de les poser. Voilà, donc on compte sur vous.
Merci Juanara pour cette nouvelle anti-pub. Tu vas devenir notre spécialiste anti-pub de l'émission. Alors, autre information, certains le savent déjà bien parmi vous. Donc, c'est la Vélorution qui aura lieu donc, le premier samedi du mois. Donc là, ce sera le samedi 7 février, 14h. Donc, rendez-vous devant l'Opéra Bastille, donc à Place de la Bastille. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, la Vélorution, c'est un rassemblement cycliste et festif. Donc, je cite... pour protester contre la culture du tout automobile et la dépendance au pétrole, pour montrer une voie simple, économique, à la portée de toutes et de tous. C'est une manifestation festive ouverte à tous les vélos et autres véhicules mus par la force humaine. Et alors le petit truc de cette action de février, c'est que c'est une action spéciale bruit. Et en fait, tous les vélorussionnaires seront dans le silence. Pour mieux que soit entendu le bruit des automobiles et des motos. Et donc, chaque participant est invité à avoir des pancartes, plutôt.
Donc, Pas de coups de klaxon, de pouet-pouet, tout ça. C'est vrai que quand il y a plus de 10 vélos en ville, on ne s'entend plus. Quoi.
Ouais.
C'est scandaleux.
Ah bah les coups de chaîne, hein, ça fait du bruit.
C'est tellement silencieux qu'il y a des gens qui ne font pas attention. Ils traversent la rue comme ça et il y a des vélos. Et du coup, ils ne font pas attention. Ils n'ont pas l'habitude.
Ouais, ça sent l'expérience.
Alors que des voitures, ça fait du bruit. Donc, on est habitué.
Donc, en fait, tu nous dis que la voiture est plus sûre pour les piétons en ville.
Une polémique. Ah,
surtout si la voiture est mal entretenue et qu'elle fait un potin d'enfer.
D'accord.
Bon, après, effectivement, il y a des risques de panne, des trucs comme ça. Mais donc, une manif silencieuse, c'est
ouais,
une très bonne idée.
Ouais, pour spécial bruit. Dans le silence. C'est samedi 7 février à 14h, place de la Bastille à Paris. Donc voilà, et puis bah, sinon on peut rappeler comme autre date, enfin comme autre rendez-vous, la campagne de. Alors moi j'appelle ça don par internet ou crowdfunding.
Financement participatif.
Merci. Pour le tour tandem Alternatiba qui aura lieu cet été pour le climat et pour mettre en avant des alternatives concrètes. Voilà, contre le réchauffement climatique. Donc sur le site alternatiba.eu, Clément, tu nous as aussi encouragé tout à l'heure à aller vers toute la presse libre, tous les canards.
Voilà, je redis, CQFD, le Fakir, la revue Silence, la décroissance, etc. Bon, de toute façon, allez voir votre kiosque préféré et puis essayez de fouiller un petit peu dans le rayon parfois caché des journaux satiriques et tout ça. Bon, faites gaffe quand même, parce qu'il y a quelques journaux peu fréquentables. Mais bon, on ne sait jamais. Hein. Bon, faites attention, c'est pas parce qu'il y a des... J'allais dire des caricatures. Bon, des petits dessins dans certains journaux mainstream qu'il faut forcément les acheter. Voilà, et sinon, sur Alternatiba, je voulais juste inviter chacun à rejoindre peut-être des groupes de travail pour préparer Alternatiba Île-de-France. Et pour ça, il y a des... notamment... deux fois par mois, j'ai pas la date du prochain, je suis désolé, mais sur le site alternatiba.eu, vous avez les infos. Donc il y a des alternatibars pour
coller
un coup et discuter d'alternatiba. Donc les gens qui sont un peu dans l'organisation déjà vous expliquent comment ça fonctionne, quel groupe de travail existe, vous pouvez rejoindre, etc. Je sais qu'il y a un groupe de travail qui est en train de se constituer sur l'énergie, parce que jusqu'à présent ça manque. Et donc prochainement ça va être lancé, donc voilà, je pense que dans le prochain Alternatibar début février ça devrait être mis au sujet du jour.
Très bien.
Et donc l'énergie, climat, c'est forcément lié. Voilà.
Eh bien ma foi, il est temps de rendre l'antenne. Et avant, on va dire comme le dit Bébert,
salutations écologiques et solidaires.
Et on poursuit avec une chanson des Fatal Picard qui nous rappelle notre jeunesse environnementale. Cyril, à toi.
Oh, mamie.
Salut tout le monde.
Salut.
Bonne soirée.
Ah, ça.
Arrêtez, putain, ça va être vite. Oh, ouais. Arrêtez. En osmose avec la nature. Depuis des millions d'années, ma famille a la vie dure à cause d'une bande d'enculés. Nous les plantes sont nos bombardes de nucléaires, de nitrates. Noyé dans le béton, c'est pas bon. Noyé dans le mazout. Yeah.
s'est fait avec des arbres et tout. On est en train de déforestiser la forêt de Montrouge. Et ça craint, parce que c'est là où j'habite.